Le livre de Job, un verset, au chapitre 12, il s'agit du verset 13. Job, chapitre 12 et verset 13, il est dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence, lui, appartiennent. » Un petit peu plus loin, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11 et verset 1er. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Amen. » Et enfin, dans le livre des Actes, quelques mots de l'apôtre Paul adressés à des croyants. Chapitre 20, Actes des Apôtres, chapitre 20 et verset 25. Actes, chapitre 20, verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Amen. » Amen. Alors, il y a un mot qui revient dans les trois passages. Vous l'avez trouvé ? Je ne l'ai pas dit avant, sinon c'est trop facile. C'est le mot « conseil ». Ouais. Dans les trois passages, on revient « Je vous ai donné tout le conseil de Dieu, un esprit de conseil ». Dieu qui conseille, finalement. Je pense que ça a dû vous arriver au moins une fois. Oui, je vous pose la question. Est-ce que ça vous est arrivé une fois d'avoir besoin d'un bon conseil ? Oui, ça arrive, ça. Hein. On en a besoin. Hein. Et pas qu'une fois. Hein. On en a souvent besoin de quelques bons conseils. Et j'ai l'impression que le conseiller est aussi difficile à trouver que le conseil à suivre, de la même manière. Parce que c'est pas tout. D'ailleurs, quelquefois, on a demandé à quelqu'un, « Écoute, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Alors, il nous a conseillé. Et comme ça ne nous plaisait pas, on a dit, « Non, ça, c'est pas un bon conseil. » Mais c'était peut-être bon, hein. Sauf que ça ne nous convenait pas, alors on a préféré oublier ce bon conseil. En tous les cas, si, évidemment, on a besoin d'être conseillé, et si, évidemment, vous avez eu l'occasion d'apporter des conseils ou de recevoir des conseils depuis, finalement, de nombreuses années, j'aimerais cet après-midi que l'on s'arrête sur un seul conseil ou conseiller, à savoir ne négligez pas tout conseil qui viendrait de Dieu. Ne négligez pas un conseil qui, venant de Dieu, serait une bénédiction pour vous et le négliger serait préjudiciable, forcément. D'ailleurs, c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois que Dieu conseille et que l'homme ne le fait pas, ça se passe mal. À chaque fois. On n'a pas forcément besoin de bien réfléchir longtemps, mais à chaque fois, ça se passe comme ça. Je ne dirais pas au grand étonnement de Dieu, mais Dieu revient sur cette idée-là, mais avec certainement un brin de reproche dans ses paroles. Il dira notamment dans le livre des Juges quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. Il s'adresse au peuple d'Israël qui, à l'époque, si, comme son nom l'indique, cette période des juges était une période assez difficile. Logiquement, un juge, on va dire, met en pratique la loi, ou en tous les cas, il est là pour statuer sur la loi, pour faire en sorte que les méchants soient punis, que les bons soient justifiés. Un juge. Sauf que dans cette période des juges, tout le monde est juge. Donc chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, comme le dit le proverbe, que finalement, chacun balaye devant sa porte, et tant pis si ça encombre la porte d'à côté, c'est pas grave. Tant que sa porte est propre, chacun voit midi à sa manière, à sa porte, donc c'est hyper compliqué, vous l'avez imaginé. Et Dieu s'adresse au peuple d'Israël en disant ceci. « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, et vous renverserez leurs autels, tous leurs lieux d'idolâtrie, vous renverserez ces choses-là. Mais écoutez le constat, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Et dans le fond, ne pas écouter un conseil qui viendrait de Dieu serait terrible, parce qu'on pourrait presque vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté le conseil? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le temps d'écouter le conseil que Dieu te donnait? Alors, on peut être préoccupé par tant de choses que l'on estime que les conseils qui viendraient de Dieu sont décalés par rapport à la vie moderne, à la vie d'aujourd'hui, à ma vie. Détrompez-vous. Dieu sait exactement cibler, Dieu sait exactement répondre aux besoins, quels qu'ils soient d'ailleurs. La vérité, c'est que bien souvent, les conseils de Dieu sont excellents, vraiment excellents. Et passer à côté nous engage à de bien grandes difficultés. J'ai trouvé au moins trois bons conseils que Dieu nous a donnés, et au moins ces trois conseils, puissiez-vous les suivre, au moins ces trois-là. Le premier de ces conseils que Dieu donnera, c'est de ne jamais faire confiance au diable. Ne faites jamais confiance à Satan. Jamais. Le deuxième conseil qu'il donnera, c'est de respecter ses directives, ses choix, ses directions. Ce sera une bénédiction pour vous, vous le verrez. Et troisième conseil qu'il pourrait vous donner cet après-midi, n'hésitez pas à lui confier votre vie et à lui confier votre avenir. On a des exemples dans l'Écriture qui témoignent de ce qui se passe quand on n'obéit pas, quand on n'écoute pas le conseil, parce qu'on va le prendre de ce côté-là. Et vous vous rendrez compte que rapidement, ça tourne vinaigre, ça tourne à la catastrophe, c'est jamais bon. Quelles sont les premières personnes qui ont fait confiance au diable? Adam et Ève. Il n'a pas fallu aller loin. Vous prenez deux habitants sur la terre, les deux premiers, et vous voyez que d'ores et déjà, ils sont soumis à un piège, soumis à une tentation, soumis à une difficulté, et il a fallu résister, et ça ne s'est pas passé. Alors, on le trouve, cela, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Je vais quand même vous lire le récit et le dialogue qui s'est entretenu entre Satan et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ne faites jamais confiance au diable. Pourquoi ? Mais parce qu'il est rusé et parce qu'il est menteur. Plus que tout, c'est un séducteur, donc c'est dangereux. Je me souviens le témoignage de cette jeune fille, on s'était retrouvé aux portes d'une église fermée. Manque de chance, samedi soir-là, il n'y avait pas de réunion. On pensait que les jeunes se rassembleraient, puis il n'y avait pas de réunion. Ils étaient partis dans une autre église et je n'étais pas là la semaine, donc je n'avais pas été informé de ça, mais j'arrivais à l'église et je me suis trouvé devant la porte close et une jeune est arrivée, comme moi, le bec dans l'eau. On s'est retrouvé devant la porte fermée, puis on a commencé à échanger en se disant, bon, il y a le quart d'heure qu'à penser, mais en fait, il y a le quart d'heure de partout. On s'est dit, bon, c'est le quart d'heure niçois, certainement, ils vont arriver. Donc, on a attendu, mais on a attendu, quelques quarts d'heure, hein, parce qu'ils ne sont jamais venus, forcément. Mais on a commencé à parler, puis un troisième est arrivé, et la discussion s'est bien menée. On s'est retrouvés pratiquement une heure à tchatcher ensemble, c'était très agréable. La jeune fille, finalement, était très interpellée par les choses de Dieu, tout comme je l'étais d'ailleurs à cette époque-là. Et puis, bon, on s'est séparés, je suis parvenu rapidement à l'église quelques semaines plus tard, et puis ça m'est sorti de la tête, j'ai jamais revu cette jeune fille, jamais. Sauf qu'un jour, j'étais cette fois-ci dans l'église depuis pas mal de temps, et puis voilà qu'on discute de quelqu'un qui était réputé pour être un séducteur. Entendez par là quelqu'un qui aimait plaire aux filles. Bon. Et en fait, il traînait comme cela, il venait dans des églises, et il aimait bien séduire des jeunes filles. Il n'était pas tout jeune, lui, mais il aimait bien séduire des jeunes filles. Et de fil en aiguille, je commence à comprendre dans la discussion qu'il avait séduit une jeune fille qui venait à l'église. Et la jeune fille, elle a cru au grand amour, elle est partie avec lui, elle est tombée enceinte. Évidemment, il l'a laissée tomber, ça ne l'intéressait pas. Et puis, il a été à d'autres conquêtes. Et cette jeune fille, elle a eu sa vie fracassée, brisée à 18-19 ans. Un rêve qui s'est fracassé, épouvantable. Et cette jeune fille n'est plus jamais venue à l'église, évidemment. Non pas que c'était la raison, mais je me souviens de la colère de ces personnes qui racontaient cette histoire, et notamment cette colère qui s'était manifestée lorsqu'un jour, un de ces pasteurs avait vu rentrer dans l'église l'homme en question. La colère lui est venue en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Après tout le mal que vous avez fait, vous voulez encore revenir ?» Et finalement, cet homme est parti. Mais voilà, la séduction, ça provoque des dégâts, forcément. Et que sera-t-il advenu de cette jeune femme? J'en sais rien du tout. Mais le fait est qu'on ne peut pas faire confiance à un séducteur. C'est un piège, forcément, c'est un piège. Et regardez dans quel piège sont tombés Adam et Ève. Ça paraît incroyable. Parce que, bon, ça leur était jamais arrivé, évidemment. Et puis, le diable n'est pas un mensonge près, hein. Vous avez vu comment le diable s'adresse à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez rien le droit de manger dans tout ce beau jardin? C'était pas ça. Mais vraiment pas. Sauf que il suffit de changer quelques mots ou déplacer la virgule, et puis tout d'un coup, vous êtes troublé. Et Ève qui se met à défendre son Dieu, son Créateur, et de dire « Non, non, tu te trompes, on peut manger de tout ce qu'on veut. » Il y a juste une exception. Et là, hop, le diable rebondit. Et le diable dit, oui, effectivement, cet arbre-là, vous n'y toucherez jamais, et tant pis pour vous, parce que vous serez toujours des robots automatisés, sans capacité de réfléchir. Vous serez manipulés constamment, parce que cet arbre, c'est celui qui ouvre l'intelligence. Et Dieu sait très bien que le jour où vous en prendrez, vous deviendrez comme des dieux. Allez sous-entendre, parce que c'est ce qui est susurré derrière cela, vous serez peut-être comme lui d'ailleurs. Pensez donc, si c'était réellement ça, pourquoi Dieu aurait planté cet arbre-là au milieu, après tout? Et puis, si c'était juste pour voir jusqu'où l'homme pouvait faire confiance à Dieu, en disant, voilà, tu peux tout faire, il y a juste une seule chose. Le jour où tu le feras, tu seras mort. Le jour où tu le feras, tu mourras. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans cette discussion, Adam et Ève ont fait preuve d'une grande naïveté, une grande légèreté, finalement. Ils n'ont pas été beaucoup plus loin dans la discussion. Et puis, ils ont cru que ce mensonge était vrai. Ah, mais on pourrait être intelligent, on pourrait avoir notre esprit qui s'ouvre, etc. Et finalement, et si c'était vrai? Et si on n'avait pas la liberté? Et si? Et vous vous arrêtez où après? Ben, vous vous arrêtez jamais. Sauf une fois que vous avez commis l'erreur, une fois que vous êtes trompé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le fruit était agréable à la vue. Il avait l'air bon à manger. Il avait l'air bon, ben forcément. C'est terrible quand même de se faire avoir comme cela. On est aujourd'hui dans une société du beau, hein, vous avez remarqué. Tout doit être calibré, tout doit être beau. D'ailleurs, on y revient, hein, puisque il y a, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu cela, mais quelqu'un avait créé une association, comment il appelait ça? Une association des gueules cassées, je crois. Gueule cassée, pour promouvoir tous les légumes, les fruits qui ne sont pas beaux, qui sont cabossés, etc. En disant, ils sont bons. On peut les manger aussi. Mais regardez dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, tout est calibré. Il faut que ce soit bien rouge pour la tomate, il faut que ce soit bien rond, etc. Si c'est un peu déformé, hop, ça passe à la trappe. Là, le fruit était beau, le fruit était fabuleux, le fruit était agréable. Ils se sont fait avoir. C'est terrible quand même de se dire qu'ils ont pu se faire piéger de cette manière-là. Et ils y sont tombés, tous les deux dans le piège. En fait, même Ève a essayé de se battre. Hein. Non, non, Dieu n'a pas dit ça. Mais il n'y a pas trop d'ardeur hein, dans sa bataille, dans son combat. L'apparence, braver l'interdit, la convoitise, ce sont des choses auxquelles on est confronté tous les jours, à tous les instants. Le conseil que Dieu pourrait vous donner cet après-midi, ne faites jamais confiance au diable. Jamais. Il vous séduira, il vous trompera, il vous volera votre conscience, votre pureté, votre droiture, votre sincérité. Il vous volera tout ce qu'il peut vous voler parce que son seul objectif, c'est la mort. C'est le seul objectif. D'ailleurs, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Dès qu'ils en ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement. Mais un lien s'est brisé, quelque chose a été brisé au-dedans d'eux. Quand Dieu est arrivé dans le jardin sur le soir, a fait entendre sa voix, première réaction, jamais ils n'avaient eu cette réaction. Première réaction, on va se cacher. Et quand Dieu les interpelle en disant, mais où est-ce que vous êtes? Ils vont avouer la chose en disant, on s'est caché, on a eu peur. Peur de la voix de Dieu? C'était jamais arrivé? Peur d'avouer à Dieu ce que l'on avait fait? Eut-il besoin de l'avouer? D'ailleurs, il devait largement le savoir. La réalité, c'est que quelquefois, quand on s'est fait avoir, c'est quand on a été piégé, c'est quand on a mis les deux pieds dedans et qu'on regrette ce choix-là, qu'on voudrait revenir en arrière, mais que c'est compliqué. Et finalement, le circuit a été enclenché et la mort s'est introduite sur la terre tout entière. Et depuis, on en souffre les conséquences, hein, vous et moi, puisque on grandit, et puis on mûrit, et puis on vieillit, et puis on meurt. C'est la vie, hein. Et à la courbe, comme cela, vous allez grandir, et puis un jour vous partirez. Et puis, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe sur la terre, et tous ces conflits, la vérité, c'est que vous devez toujours être certain que Dieu ne change jamais d'avis sur ses conseils. Et si Dieu avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, excepté ça, il n'allait pas changer d'avis. Il n'allait pas changer d'avis. Et deuxièmement, la voix de Dieu devrait compter, je le souhaite en tous les cas pour vous cet après-midi, plus que n'importe quelle autre voix. La voix de Dieu est primordiale à toutes les autres. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est bien de respecter les choix quand Dieu donne des directives, quand Dieu donne des conseils. C'est bien de suivre ces directives. Un homme de l'Ancien Testament, et pas n'importe qui, c'était un roi. Lui a négligé cela, puis il l'a vraiment négligé de façon terrible. En fin de compte, il a décidé de changer les règles. Est-ce que vous êtes bon ou mauvais joueur? Dites-moi. Vous êtes des bons joueurs? Ah ben alors, je ne vais pas vous convaincre. Je m'adresse aux mauvais joueurs. S'il existe des mauvais joueurs. En général, quand on perd et qu'on n'a pas envie de perdre, on va essayer de changer les règles. Non? Ah oui, parce qu'il faut bien s'en sortir. Donc on essaie de changer les règles. Je dis on, je généralise, hein. Ne croyez pas que je sois un mauvais joueur. Je l'ai été, je le suis moins. J'espère ne plus l'être. Voilà, on essaie de changer les règles, hein, disant non, non, mais c'est pas exactement comme ça. Bref, changer les règles. Vous pouvez toujours changer les règles. Mais si vous changez les règles, ne vous étonnez pas que d'autres changent les règles aussi. Et en fait, à ce jeu-là, on s'en sort jamais. Parce que de toute façon, vous allez adopter les vôtres, mais comme en face, aussi les règles auront changé sans que vous le sachiez, vous n'allez jamais vous en sortir. Quand Dieu installe et instaure des règles, évidemment, il y a des raisons. Il y a quelque chose qui est très simple. On pourrait rendre les choses tellement compliquées alors qu'elles sont si simples. Dieu dira un jour à un roi, le roi Saül, de lever son armée pour aller mener une bataille. Et il a donné cet ordre au roi Saül, « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. » En d'autres mots, exterminez tout, détruisez tout. C'est la guerre, hein, c'est affreux, c'est la guerre. « Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Ça paraît effrayant On est dans un contexte particulier, un contexte de guerre. Saül convoqua le peuple et en fit la revue. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et se mit en embuscade et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas exterminer ceci. Ils exterminèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors on a changé les règles. Dieu avait dit, vous allez aller là-bas. Il faut vous dire que quelques siècles auparavant, dans cette lignée d'Amalek, on était tombé sur le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte et on avait massacré tout le monde, malheureusement. Donc Dieu ne tient pas le méchant pour innocent et Dieu fait payer le péché des hommes comme il se doit, à moins qu'ils ne se repentent, manifestement. Aucune repentance de ce côté-là, donc c'est tristement l'heure du jugement. Et ça, ça va d'une manière lourde, hein. C'est lourd, c'est intransigeant, il n'y a pas de passe-droit. En fin de compte, tout le monde sera jaugé, jugé de la même manière. On comprend vite pourquoi le peuple a changé les règles. Parce que Saül et le peuple ont changé les règles. Dieu avait dit, vous détruisez tout. Et quand on arrive, on commence à faire le nettoyage, et puis on se rend compte que ben, y a des animaux qui sont en bonne forme, bien gras, ça rapporte de l'argent, en tous les cas... Ça peut toujours servir. Donc, on a décidé de massacrer que ce qui était chétif, à moitié mort, mais tout ce qui était en bon état, on le garde. C'est pas ce que Dieu avait dit. Pas ce que Dieu avait dit. Si ça s'arrêtait là encore, mais ça s'arrête jamais là, parce que à partir du moment où il y a une forme de désobéissance, comment vous pouvez faire confiance? Si vous demandez à quelqu'un de, je sais pas moi, vous lui confiez quelque chose et vous lui demandez de garder le secret et vous apprenez qu'il a répandu la chose à d'autres, vous ne lui ferez plus jamais confiance. C'est difficile de garder la confiance. Et Saül était le premier roi en Israël installé, institué par Dieu, avec quand même dans l'idée que ce peuple soit différent des autres peuples. Or là, il ne manifeste rien de différent des autres, même volonté de s'enrichir, même volonté de s'approprier le bien des autres, même capacité de désobéir au conseil de Dieu. Alors, Samuel viendra trouver le roi Saül, parce que Dieu est en colère, bien évidemment. Et voici ce que l'Éternel dit à Samuel. « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Il est capable de mentir d'une manière incroyable, éhontée. Quand Samuel arrive, dès que Saül voit Samuel, il lui dit « Sois béni de l'Éternel ». J'ai observé la parole de l'Éternel. La première chose qu'il dit, ils se sont à peine salués, j'ai observé le conseil de Dieu, ce que Dieu m'a demandé de faire. Et là, Samuel, il n'est pas sourd. Pas bête et pas sourd. Et il lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ouais, parce qu'il y en avait quelques-unes de brebis. Donc il les a entendues. Qu'est-ce donc que ceci, ce mugissement des bœufs que j'entends, est-ce que tu n'aurais pas obéi? Alors il insiste, et regardez jusqu'où il va. Il va dire, ils ont été amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Ça sent pas un peu l'arnaque, ça? Dites-moi franchement. En fait, dans le bénéfice du doute. Et si, après tout, ils avaient fait ça pour ça, c'était pas ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'était simplement pas ça. C'était pas comme ça que Dieu voulait faire les choses. Combien de fois avez-vous avez-vous voulu plaire à Dieu, lui être agréable, et vous avez fait à votre manière. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça que je le veux. Et vous avez dit, mais c'est pour toi que je le fais. Oui, mais c'est pas comme ça. C'était juste pas la bonne manière. C'était pas de cette manière-là qu'il fallait le faire. C'était différemment. Alors il insiste, évidemment, et Samuel le reprend, il considère qu'il est hypocrite, qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas vrai. Et l'histoire continue jusqu'à un peu plus loin, et la vraie leçon qu'il fallait retenir, parce qu'on ne change pas les règles que Dieu impose, la vraie leçon a été donnée par Samuel un peu plus bas. Il dira ceci, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir ?» dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais il va beaucoup plus loin. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ce que je veux vous dire, c'est que cet homme qui cherche à spiritualiser, sanctifier son attitude, peut-être parce qu'il a été piégé d'ailleurs, parce qu'il est pris la main dans le sac, finalement en disant « Non, mais tu sais, le peuple a épargné, mais en fait, c'était pour les sacrifier, bientôt il aurait pu dire « On n'attendait que toi ». Mais qu'importe, c'est pas ce que Dieu avait demandé. Si Dieu vous demande quelque chose, faites-le. Ne dites pas « Non, mais je le vois autrement, je le vois à ma manière ». Si Dieu vous dit « Arrête, arrête de vivre comme tu fais, change, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes ces mauvaises pratiques. » Ne dites pas « Non, mais il me faut un peu de temps, je vais arrêter tout cela, mais j'ai besoin d'abord de régler ça à ma manière. » Non, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que l'on ferait. Et quand bien même vous vous sacrifieriez, si Dieu ne vous l'a pas demandé, c'est un sacrifice inutile, ça ne sert à rien. Vous aurez perdu du temps, de l'énergie, la santé et tout le reste. J'ai connu quelqu'un comme ça, qui avait besoin de sortir de pas mal de difficultés. Et donc, il s'était mis en tête que pour arriver à cela, il fallait qu'il s'astreigne des conditions de vie très, très, très drastiques. Il est arrivé quasiment à l'hôpital, aux urgences, tellement il a risqué avec sa vie. C'était complètement absurde. Dieu lui avait jamais demandé ça. Seulement, il s'était mis ça dans la tête. Si Dieu vous donne un conseil, faites-lui confiance, autant que vous ne ferez pas confiance au diable, bien évidemment. Mais quelle que soit notre manière de nous justifier, ça ne tiendra jamais devant Dieu. Je crois qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas s'abuser soi-même sans en assumer les conséquences. Obéir, ça vaut mieux que tout le reste. Souvenez-vous de cela. Obéir à Dieu, ça vaut mieux que tout le reste. Et désobéir, c'est comme renier. Ne pensez pas que parce que vous avez un petit peu désobéi, vous aimez Dieu quand même et il vous accepte comme ça. Non, c'est comme renier. Parce qu'on parle de divination, on parle de superstition, d'idolâtrie. Il n'y a rien de pire devant Dieu. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas agir et continuer à agir de cette manière-là. Dieu a établi de bonnes règles justes. Faites-lui confiance. Les règles que Dieu a établies sont bonnes. Elles sont bonnes. Faites-lui confiance. Elles sont solides. Elles sont bonnes. Et elles vous conduiront vers la paix et vers la joie. Et puis, je terminerai avec un troisième exemple. Alors, celui-ci, il est, il nous fait de la peine, ce troisième exemple, parce qu'on aurait tellement voulu que ça se termine autrement. Il nous est dit qu'un jour, quelqu'un va venir vers Jésus. Et cet homme-là a une question qui le taraude, il a besoin d'une réponse. C'est la même chose pour nous, quand on a un problème, une question et qu'on n'a pas la réponse, ça nous empêcherait de dormir. Donc on imagine dans quel état se trouve cet homme qui vient vers Jésus en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle ? Que dois-je faire ?» pour hériter la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je veux aller au ciel. Je veux pas aller en enfer. Je veux être sauvé. Je veux pas être condamné. Je veux être pardonné. Je veux m'en aller vers le ciel. Je veux pas être condamné à l'enfer pour l'éternité. Je veux pas. Qu'est-ce que je dois faire ? La discussion s'engage. Et Jésus, très simplement, va lui dire, eh bien, fais ce que Dieu a donné comme conseil. Suis les conseils de Dieu. Luc, chapitre 18, et verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. T'as qu'à faire cela. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que ce garçon dit, mais j'ai fait tout ça. C'est fou, hein ? J'ai fait tout ça et je ne suis pas satisfait. J'ai fait tout ça et quelque chose en moi qui est vide. J'ai fait tout ça et il y a quelque chose qui ne colle pas encore. J'ai fait tout cela, mais je suis toujours en recherche. Est-il possible de faire tout cela sans jamais atteindre le but ? C'est certainement la frontière entre ce qu'on appellera la religion et la foi vivante. C'est certainement ce qui montrera une frontière entre ce que l'on veut globaliser. Croire en Dieu, c'est vivre ou avoir une religion, mais je crois que c'est plutôt avoir une relation avec Dieu. C'est ça qui fera la différence. C'est juste ça. Ça ne peut pas être autrement. Cet homme a une bonne religion, d'ailleurs, puisqu'il a fait ses propres conseils qui ont été donnés par Dieu, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous savez, il ne suffit pas d'être sincère, malheureusement. Il ne suffit pas d'être sincère, parce que être sincère, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'être sincère. Il faut l'être, mais ça ne suffira pas. Il ne suffirait pas même d'être pauvre, parce que Jésus dit à cet homme, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Cet homme était riche. Alors évidemment, il ne suffit pas d'être pauvre. Ce n'est pas ça le problème. Il ne suffit pas d'être engagé, parce que cet homme, manifestement, dans sa piété, était engagé. Mais entre conviction et tradition, on a du mal à faire la part des choses quelquefois. Et c'est là où le bât blesse. C'est que finalement, cet homme a une tradition qu'il veut respecter à la lettre. Et il espère que cela le contente, que cela lui suffise. Et puis, il n'est pas heureux. Évidemment, parce qu'il est sincère. Eh bien, Dieu frappe sans cesse à la porte de son cœur. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il aimerait trouver la parade. Il faut la trouver. Et Jésus lui dit, c'est simple. Tu n'as plus qu'à mettre Dieu en premier. Et toi après. Juste Dieu en premier. Et toi après. Et tout est résolu. Tout est réglé. Mais comment ? T'as de l'argent ? Eh bien, donne tout. Comme ça, au moins, tu ne pourras plus compter sur ton argent. Ton avenir, il sera plus qu'incertain puisque tu n'auras plus rien. Tes plans retraite, etc., tu oublies. Tu n'as plus rien. Tu seras obligé de faire confiance à Dieu. C'est comme ça qu'on voit la chose. Eh oui, si tu n'as plus rien, tu seras bien obligé. Tu veux le faire. Tu veux vraiment le faire. Alors c'est la seule solution. Tu as tout. Il te manque une seule chose. C'est quand même terrible de se dire que des gens sont malheureux et pourtant ils ont tout sauf une seule chose. D'ailleurs, souvent, si c'est que matériel, vous savez très bien qu'on est aspiré par le matériel. Et plus on a, et moins on est satisfait. C'est comme ça. Là, pour cet homme, le choix était facile, le conseil était simple. Je pense qu'il a compris tous les mots. Les tournures de phrases n'étaient pas complexes. C'était facile à comprendre. Sauf que, il nous est dit qu'il est devenu tout triste. Parce qu'il était très riche. Devenu tout triste. Et d'un coup, son empire s'effondre. D'un coup, il voit l'avenir et il voit mal l'avenir. Il ne le voit pas bien. Il dit, c'est pas possible. La Bible dit qu'il devint tout triste car il était très riche. Et il s'en alla. C'est terrible. Il ne l'a pas fait. C'était un simple conseil, mais il ne l'a pas fait. En fait, on a souvent dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y... Vous connaissez bien. Ouais. Alors, si l'argent contribue au bonheur, Dieu, c'est la source du bonheur. Vous préférez quoi, vous ? Vaut mieux aller à la source, plus efficace. Là, la question qui se pose cet après-midi, et je termine, la première place est convoitée. Le diable veut la première place dans votre cœur. Il fera tout pour vous séduire. Ne faites pas confiance au diable. Sinon, vous allez tomber dans un piège mortel. Il est évident que nous-mêmes, on aimerait avoir un petit peu le volant, hein, à première place. Je change les règles, je fais comme je veux. Dieu vous dit, ne changez pas les règles. C'est dangereux, quand même, c'est dangereux. Et l'obéissance, ça vaut mieux que tout. Et dans le fond, cette première place, est-ce que vous la laisserez à Dieu ? Parce que là, c'est ce qui s'est joué. Soit c'est Dieu qui est en premier, soit il n'est pas. Et comme a dit quelqu'un, si Dieu n'est pas en premier, il n'est pas en deuxième, il n'est pas en troisième. Il est tout au... il est bon dernier. Soit il est premier, soit il est bon dernier. On ne peut pas l'intercaler. Il y aura trop de choses qui viendront nous envahir. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Qu'est-ce qui comptait le plus pour cet homme, son avenir, son argent ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? De l'argent, de la sécurité, une bonne carrière, ou le salut, l'éternité ? Jésus a préparé le ciel pour vous aussi. Jésus a préparé la route. Jésus meurt à la croix en donnant sa vie et en disant « Le ciel est ouvert maintenant, tout est accompli. » Il ouvre la voie, une voie parfaite, et s'il fallait en douter encore, on pourrait se souvenir de ce qu'il est dit encore dans un texte messianique en parlant du Messie qui vient. Il dira ceci au chapitre 9 et au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. » Et vous savez quoi ? Conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est de lui dont vous avez besoin, du Messie, de Jésus, qui meurt à la croix, qui est le Prince de la paix, qui est le Dieu puissant, qui est le conseiller et qui est admirable, Père éternel, capable de tout changer dans votre vie. Faites-lui confiance, parce que quand cet homme riche va s'en aller, bien triste, Jésus va s'adresser à tous ceux qui sont là et qui ne savent pas trop comment réagir. Il va leur dire, c'est dur, ce sera dur à un riche d'entrer dans le ciel. On comprend tout ce qui est richesse et qui s'opposera à la simple, au simple attachement à Dieu. Mais il dira quand même une parole tellement encourageante. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cet après-midi, vous ne pourrez pas vous changer, mais Dieu peut vous changer. Vous ne pourrez pas changer de trottoir, mais Dieu pourra vous transporter de là à ici. Il est capable de le faire. Il vous transporte de la mort à la vie, si vous lui faites confiance. Il va vous rendre la vie, si vous avez l'impression d'être mort à l'intérieur. La résurrection, Jésus l'a inaugurée, et c'est une réalité pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il sauve, il délivre, et il est capable de vous bénir. Écoutez ses conseils. C'est pour vous, salutaire. Amen.